Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant 12 thèmes bibliques qui vont nous aider durant toute notre vie. Nous arrivons à l'étude numéro 3 et voici notre quatrième thème biblique. Dieu manifesté en chair, selon 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Dieu manifesté en chair. Il est dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, donc les non-croyants, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Chers amis, nous voudrions aujourd'hui chercher à comprendre ce que signifie pour nous le divin mystère. Dieu est manifesté en chair, car pour tous ceux qui s'attachent au Sauveur, il est essentiel de savoir s'ils le comprennent ou non, et s'ils le comprennent, ils ont l'énergie de ne pas dire seulement « Dieu est manifesté en chair », mais de faire l'expérience. Dieu est véritablement dans la chair. Il ne faut pas que nous pensions que le Sauveur était né, tout est fait ainsi, et qu'après sa mort, après sa résurrection et son ascension dans les cieux, notre seul devoir consisterait à fêter sa naissance tout simplement. Je crois que notre Seigneur Jésus-Christ n'attache pas une très grande importance à ce que nous célébrions sa naissance et fêtions éternellement le petit enfant dans la crèche. Ce qui lui importe, c'est que nous sachions non seulement qu'il est né un jour, mais surtout qu'il est toujours présent. Que c'est une vérité universelle, une vérité qui, avec le temps et par le moyen de l'Évangile, sera reconnue par tous les hommes. Dieu est dans la chair. Cela seul peut élever l'humanité et, à sa suite, toute chair. En effet, ainsi que toute la terre, toute la création, elle peut donc élever cela à une hauteur où ni la détresse ni la mort qui règnent aujourd'hui ne peuvent l'atteindre. L'apôtre Jean a dit que quiconque ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair n'est pas de Dieu, il n'appartient même pas à la communauté de Christ. Cela ne veut pas dire que nous devrions établir une profession de foi et proclamer Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que ainsi nous avons fait tout ce qu'il faut. L'apôtre veut dire que quiconque dans notre communauté ne sait pas aujourd'hui que notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, et dans notre chair, celui-là n'est pas de Dieu. Et quand la Bible dit « celui-là », vous l'avez compris, ça veut aussi dire « c'est le là ». Dès les premiers temps, les forces contradictoires se sont fait sentir et se sont appuyées sur l'état dans lequel se présentait l'humanité, état de péché état de misère et état de mort, c'est-à-dire l'obscurcissement des esprits. En considérant les peuples d'alors, d'autrefois, tels que les Romains, les Grecs, les Barbares, les Égyptiens, les Babyloniens, on se disait le Fils de Dieu est bien apparu un jour dans la chair, mais maintenant il est dans les cieux. C'est terminé, il est très loin de nous. Dieu ne peut pas habiter dans la chair. Et beaucoup de chrétiens se sont même laissés tellement impressionner par la mort et le péché qu'il ne leur a plus été possible de croire que Christ est vraiment la sainte parole divine faite chair. On nie cette présence divine, tout simplement, parce que dans l'humanité, sans contact avec le Christ, on voit apparaître cette autre vérité dans la chair. Il existe aussi un élément non divin. Et comment? La chair est remplie de ténèbres. Je ne parlerai pas aujourd'hui de la nature de ces ténèbres, de tout ce qu'elles renferment, de leur action, des meurtres, des vols et de tous les blasphèmes contre Dieu. Nous connaissons tout cela suffisamment. Je ne veux dire que ceci, la parole, la sainte parole, Christ est dans la chair, et le signal d'un combat contre l'autre, Satan, qui était auparavant dans la chair, il y est toujours, et plus que jamais. Qu'on l'appelle mort, qu'on l'appelle diable, ou qu'on l'appelle Satan, qu'on l'appelle les ténèbres, c'est absolument indifférent. C'est ce dont chacun voudrait se délivrer, parce que chacun croit qu'il est bon. Et il sent pourtant ceci, je veux en effet être bon, mais je ne le peux pas. Je voudrais servir la vérité, et je suis entraîné au mensonge. Je voudrais être juste, et je suis injuste. J'ai bien la volonté, mais non l'accomplissement. Chacun sent donc cela dans son cœur, et fait pendant toute sa vie les plus tristes expériences. Beaucoup en viennent même à se condamner eux-mêmes. On dit souvent qu'il faut combattre cet élément mauvais. Oui, faisant une fois l'essai, pourquoi pas, on s'y est appliqué, il me semble, durant des siècles. On a inventé l'ascétisme et la torture de soi-même. Tout a été vain, même le yoga. Aucun homme ne peut soutenir cette lutte. Mais l'esprit qui est en Christ l'a engagé. C'est lui qui combat et nous pouvons avoir toute confiance en lui. Christ, dans la chair, est le plus puissant adversaire du, pardonnez la rude expression, du diable. Du diable qui, lui, se trouve dans la chair. Christ dans la chair, c'est le contraste de la justice de Dieu et de notre injustice. C'est la lutte contre le péché. C'est le combat de la vie contre la mort. Ce combat est une réalité. Il faut qu'il soit continué et qu'il finisse par la victoire. Alléluia. Et c'est pour cela que dans un certain sens, je trouve illusoire la recherche de la paix par les chrétiens quand ils entendent par paix une vie commode que l'Évangile doit leur procurer. Mais il faut au contraire songer à la parole qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. » Et si vous regardez du côté de la Corée du Nord ou de chez Vladimir Poutine et d'autres, la bombe atomique. Tant que dure le combat, nous n'avons la paix que dans le combat. Notre paix ne consiste pas à vivre commodément, ni à nous reposer, mais à être avec Christ, avec Dieu dans la chair, contre l'autre. Qui est l'autre? Qui est aussi, lui, dans la chair. Et vous savez qui c'est. Il ne nous est pas non plus permis de nous tranquilliser parce que l'apôtre a dit aussi « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Beaucoup de gens s'appuient là, tout simplement, sur cela pour dire « Vous le voyez bien, nous sommes donc impuissants, nous ne pouvons être sauvés que par grâce, mais nous ne pouvons rien faire d'autre. » Oui, par la grâce, il nous faut affronter la mort et ne jamais céder, ne nous effrayer d'aucun état de l'homme tel qu'il est naturellement et ne pas penser que nous sommes nécessairement de misérables lâches, totalement incapables de jamais rien faire de bon. Par la grâce, nous abolissons, pour ainsi dire, en nous, certaines lois naturelles. Car il y en a en nous une nature qui est mensongère. Car l'homme qui vit dans le péché ou dans lequel le péché habite, eh bien, il ment à son origine. Dieu n'a pas du tout créé cet homme-là. À l'origine. Ça, c'est un homme faussé. Si Christ est venu dans la chair, c'est pour que tu te sentes à nouveau un homme véritable. Croire en Christ, c'est se tenir aux côtés de Jésus, redevenir un homme qui appartient à Dieu, c'est-à-dire à soi-même et à d'autres hommes. Il n'est pas vrai que nous appartenions au péché. Ce qui est dans ma chair n'est pas tellement vrai. Je ne suis un homme véritable que si Dieu habite dans ma chair. Et moi j'ajoute, ça vient de moi et ça n'engage que moi, Dieu habite dans ma chair par le Saint-Esprit. Dans ce combat, notre force, notre intelligence et notre raison ont peu de valeur. Et il est à peu près superflu de courir et de nous hâter. Ce qui a de la valeur, c'est notre foi. C'est que nous croyons que la victoire de Jésus est certaine. Au lieu que parfois on a une conception différente, car on pense que Jésus est vainqueur, il règne, et à la fin du monde, eh bien, il descendra simplement du ciel, tel un phénomène. Tout cela pour changer instantanément, avec un bâton magique, toute chose. Eh bien, ce ne sera pas tout à fait ainsi. Christ ne descendra pas d'en haut, conformément à l'idée que nous nous faisons de ces fameux en haut. Son en haut n'est pas le ciel à présent, mais le lieu que Dieu lui a préparé dans la chair. En toi, Christ est en haut. De toi, Dieu doit rayonner parce que Christ est en toi. Et j'ajoute, par le Saint-Esprit. Ça engage que moi. Il nous sert de rien que des lumières viennent du ciel. C'est de nous que la lumière doit naître. Là-haut de notre Seigneur Jésus-Christ est là en moi. Là-haut de notre Seigneur Jésus-Christ est là en moi, en toi, là où il faut combattre jusqu'à la mort, où il faut verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang, plutôt que de reconnaître au péché le droit de vie. Non que je puisse empoigner le péché et le jeter tout simplement dehors, mais je lui dis, tu es condamné, ta fin viendra aussi certainement que je vis, car Jésus est présent, il est présent dans la chair. Sans cette présence actuelle, je renoncerai à ma foi, tout ne serait que illusion. Si je ne peux pas posséder Dieu dans ma chair, tous mes efforts sont absolument inutiles, mais toute chair est à Dieu. Dans toute la création, dans ce que nous appelons la vie corporelle, ou selon l'expression de notre texte, la chair, le mensonge, peut s'y introduire, et nous le savons. Mais nous disons, si Christ est dans la chair, finalement, toute chair connaîtra Dieu. Voyez-vous, dans les multitudes, dans les multiples races de la terre, Dieu se lèvera comme le soleil, il se lèvera de leur chair, Christ se lèvera à la gloire de Dieu le Père. Chez les Africains, les choses se passeront à la manière des Africains. Ce n'est pas nous qui pouvons les amener à l'accord avec Dieu, mais c'est Jésus-Christ dans la chair des Africains. C'est Jésus qui peut faire d'eux des hommes de Dieu, non pas selon notre fameuse civilisation biaisée, mais selon leurs besoins à eux. Cela n'est pas notre affaire, de même pour les Japonais, les Chinois, les Hindous et de quelque nom qu'ils s'appellent. Christ dans la chair nous fut aimé, oui, nous fait aimer tous les hommes. C'est lui qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Même nos ennemis, il nous inspire la bienveillance, même envers ceux que nous aimons pas trop. Non que nous flattions le monde, mais une haute bienveillance envers tous nous fait affirmer malgré tout que Christ est venu aussi dans la chair de ces pécheurs-là. La disparition de l'autre, c'est-à-dire de Satan, en eux, cela n'est qu'une question de temps, et Jésus seul vivra. Telle est, mes chers amis, la signification du jour du Christ, Noël. Noël, si nous voulons le fêter, pourquoi pas? Mais je voudrais voir supprimer la manière habituelle de célébrer cette fête. Chaque jour devrait être un jour du Christ, où notre foi répandrait l'éclatante clarté de Christ, afin qu'on voit aussi que Jésus est réellement avec nous dans notre société humaine qui doit rayonner de lumière divine à la gloire de Dieu le Père. Prenons-en bien conscience et en combattant pour y atteindre, tenons nos regards fixés sur Christ venu dans la chair, et sur Dieu le Père en lui. Luttons, mais non contre les hommes, Christ ne lutte contre aucun homme. Il ne s'empare pas d'un pécheur pour le jeter tout simplement en enfer et d'un autre pour le mettre tout simplement au ciel. Jamais depuis que le christianisme existe, on n'a vu Jésus agir ainsi. Les gens qui en sont capables, ce sont ceux qui cherchent leur piété ailleurs que auprès de Dieu, qui condamnent à droite et à gauche, et prennent au milieu d'eux quelques personnes qui leur plaisent selon eux et qu'ils déclarent sauvés. Jésus n'a jamais eu aucune part à ces procédés inventés par les dévots au cours des siècles. Il n'entreprend pas une lutte contre la chair, mais il lutte dans la chair contre les ténèbres, contre le péché qui est en toi et en moi. Il ne te cherche pas querelle, il ne s'irrite pas contre toi, pour que tu domptes toi-même le péché en toi. Non, Christ n'est pas venu en ce monde pour être notre maître et notre tyran. Il est notre sauveur. Il est venu pour vaincre en nous ce qui n'est pas de Dieu. Il faut que le mal soit exclu de la chair où Christ habite. Mais tant que cela ne sera pas acquis pour tout le genre humain, cela ne peut l'être davantage pour chacun de nous isolément. Or, jusque-là, nous devons continuer de lutter. Et c'est pourquoi nos luttes et nos combats, même ceux des meilleurs disciples de Jésus, des apôtres, ne sont pas du tout terminés. Il n'est pas possible qu'un chrétien, un apôtre par exemple, dise tout simplement « J'ai fini de lutter. À présent, je peux maintenant venir en aide à tous les autres. » Dans les apôtres et dans les meilleurs disciples, eh bien, le combat persiste. Le combat persiste dans chaque homme, dans chaque femme. C'est le même combat que celui qui se livre dans le monde entier. Et il ne faut pas que nous perdions courage, même si la pleine clarté tarde à venir, qu'elle tarde à venir en chacun de nous. Il importe donc seulement que nous sachions que la clarté, elle, viendra, et que la pleine clarté ne peut manquer de se faire. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu dans la chair, et j'ajoute par le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire ici que le monde entier s'acharne contre nous. Je ne me défendrai pas. Viennent tous les démons et que viennent toutes les ténèbres, me voici, je n'ai nul besoin de me défendre. Pourquoi ? Parce que je sais que Christ est dans la chair. Dois-je donc vivre dans l'angoisse parce que je suis un pécheur ? Non. Je ne crains aucun péché ni la mort. Christ est venu dans cette chair de péché et de mort. Donc, je suis maintenant libre et la victoire est à moi. La victoire est à vous tous. Mais il faut que vous le croyiez, que vous en ayez conscience, alors vous serez convertis. Il ne vous faudra rien de plus. Il n'est pas du tout nécessaire que maintenant vous apparaissiez comme des hommes meilleurs. Pour celui qui est convaincu de la présence de Christ dans la chair, tout le reste se donne naturellement. Beaucoup ne le sentent pas encore, mais même en eux, la lumière se fera tôt ou tard et ils seront convertis. C'est à cette conversion que je voudrais travailler ici, dans notre maison. Je n'ai souci d'aucune autre forme de piété. Toutes les règles que nous cherchons à imposer à la vie, toutes les lois que nous inventons n'ont aucune valeur à mes yeux. Je ne veux qu'une seule chose. Oui, je souhaite qu'il me soit donné de vous entendre tous ensemble dire en pleine conscience, dans l'épreuve, dans le besoin, dans le travail et dans la tribulation, dans la vie et dans la mort, que Christ est venu dans la chair, et j'ajoute par le Saint-Esprit, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Personne. Il nous faudra donc certainement encore faire des expériences. Nous ne pouvons pas dire que nous n'en faisons pas. Nous en faisons beaucoup. Il y a d'amères, car ce n'est pas toujours une chose agréable et facile d'accepter entièrement Christ présent dans la chair, ou de dire tout simplement de tout son cœur « Oh, je regarde tout, absolument tout comme des balayures, afin de gagner Christ. » Cela ne convient pas à la plupart des chrétiens, car ils veulent avant tout prendre soin de leurs propres affaires. Mais laissons un peu cela. Que cela apporte la paix ou la guerre, que nous soyons compris ou incompris. Cette vérité, elle demeure. Christ est Dieu manifesté en chair. Nous pouvons donc l'affirmer. Nous appartenons à Dieu dans sa pensée. Et là, nous sommes nés de nouveau. Et nous devenons ainsi de nouvelles créatures. Chacun l'est à sa manière, bien entendu. Aucun n'est parfait, moi le premier. Mais nous nous acheminons vers le nouveau, vers de nouveaux cieux et vers une nouvelle terre. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, sachons non seulement aujourd'hui, mais aussi tous les jours à venir, et sachons-le avec foi, avec joie, avec la conviction de la victoire, Dieu est manifesté en chair. Exaltons donc notre Seigneur Jésus-Christ et tenons ferme le drapeau du combat, ne le laissons jamais tomber. Et s'il faut lutter jusqu'au sang, ne nous laissons pas abattre, ne nous décourageons jamais, ne reconnaissons aucun droit au péché, ne plaidons jamais pour les ténèbres. Rien, absolument rien, n'est une force. Rien n'a de pouvoir si ce n'est ce que Christ venu dans la chair, à qui nous avons chanté déjà le cantique suivant. Certains se rappellent. Jésus est le héros toujours victorieux. Il triomphe de tous ses ennemis. C'est Jésus qui verra bientôt le monde entier à ses pieds. C'est Jésus qui vient dans la splendeur et nous, il nous conduit de la nuit à la lumière. Chers amis, notre cinquième thème biblique, c'est Dieu qui parle ici. Cela se trouve dans Ésaïe, ou Isaïe pour ceux qui ont des Bibles de Maritsu ou du ou des autres Bibles catholiques, la Bible de l'abbé Crampon, par exemple. Alors, Isaïe ou Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Chers amis, nous devons non seulement prêter l'oreille, mais nous devons venir tendre toute notre personne vers la voix que nous entendons pour bien l'écouter. Le meilleur moyen d'attirer un homme d'un certain côté, c'est de le faire écouter. Aussi Dieu, qui veut faire de nous des gens qui entendent ce qui vient du ciel, nous exhorte à prêter l'oreille, et il promet à ceux qui l'écouteront que leur âme vivra. En Israël, on comprenait la parole suivante. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Car le peuple d'Israël se souvenait de ses expériences. Les Israélites pieux entendaient encore la voix du Sinaï. Ils voyaient l'ange venir vers Abraham. Ils se souvenaient des paroles qui ont été adressées à Samuel et aux prophètes. Ils comprenaient ce que cela veut dire. Prêtez l'oreille afin que votre âme vive. C'est l'Éternel qui parle. Par toute l'organisation religieuse d'Israël, le culte du temple, le ministère des prêtres, les âmes pieuses pouvaient entendre bien des choses. Et plus d'une fois, Dieu leur répondit par la voix du prêtre. Ce fut le cas pour Anne, par exemple, et pour bien d'autres encore. Mais plus tard aussi, quand la voix de Dieu ne se fit plus entendre dans le temple, eh bien des paroles divines furent transmises carrément au peuple par les prophètes. Et à certaines époques, ces paroles furent très fréquentes. Souvent, quand le peuple se détournait de Dieu et que Dieu semblait se tenir loin de lui, il y eut, par les prophètes, une véritable richesse de paroles divines. Des hommes sanctifiés se levaient, et les Israélites pieux comprenaient que c'est Dieu qui parle. Ils entendaient l'exhortation qui dit « Prêtez l'oreille et venez à moi ». Et c'était une chose très douce de venir à Dieu de plein pied, pour ainsi dire, car on ne voyait plus le lieu ni la personne, on n'avait qu'une seule pensée, Dieu parle maintenant, ici. Et c'est parce que Dieu a parlé que nous avons la Sainte Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Par Jésus-Christ et par les apôtres, Dieu a parlé dans celui-ci, bien plus encore que dans l'Ancien, car il se mettait, pour ainsi dire, au niveau des hommes. Dans la Sainte Bible, il est resté sur la terre une voix que nous pouvons écouter. L'entendre n'est pas difficile, pourvu que nos sentiments soient semblables à ceux des Israélites pieux, que nous ayons les mêmes rapports avec Dieu, car la Bible seule, sans la révélation personnelle, elle ne donne pas une impression absolument complète. Elle est toujours, bien entendu, le plus beau livre, le plus saisissant, le plus auguste, le plus vrai. Mais elle doit être plus que cela. Elle doit créer un lien entre nous et le Dieu dont elle renferme les paroles. Nous aussi, donc, nous devons venir de plein pied, non seulement à la Sainte Bible, mais à Dieu, avec, après avoir l'impression que Dieu a vraiment parlé. La prédication a le même but aujourd'hui que la Sainte Bible. Et il ne me semble que dans notre tête aussi, il y a la voix de Dieu, qu'il a quelque chose à nous dire maintenant. Si nous sentons cela dans nos cœurs, dans notre esprit, si nous sentons et nous entendons la voix de la conscience et la voix de l'esprit qui nous appelle à un renouveau de foi, un renouveau d'espérance, de patience, de bienveillance, qui veut nous rendre plus assurés en Jésus-Christ, alors il nous sera permis de penser « c'est Dieu qui parle, c'est notre Sauveur ». Et je suis absolument convaincu que d'une manière ou d'une autre, chacun entendra pendant ces journées un appel du Seigneur. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas au prédicateur qu'il appartient de vous faire ce don, c'est notre Sauveur qui s'adresse à chaque âme individuellement, oui, comme à nous tous ensemble. Donc, il sait nous faire sentir que c'est bien lui-même qui parle, et il se révèle ainsi véritablement à nos cœurs, à notre âme, à notre conscience, à notre esprit. Oh, croyez-le, s'il vous plaît, et que chacun aide un peu à ce que ces journées soient pour nous tous, une source nouvelle de force, d'aide, de consolation, de liberté, de douceur, d'humilité et de fidélité à notre vocation céleste. Oui, c'est lui-même, c'est le Sauveur qui veut nous parler. Il ne veut pas que nous nous contentions d'avoir une certaine religiosité, que nous ayons seulement les formes extérieures, lui importe absolument peu. Je faisais partie de ceux-là, longtemps. J'avais seulement une certaine religiosité, une forme extérieure, mais ça ne plaît pas au Seigneur, mais pas du tout. Croyez-moi, l'obéissance à la loi ne lui suffit pas. Notre droiture ne fait que préparer nos cœurs à écouter la voix du Sauveur, afin qu'elle nous guide et que nous soyons gouvernés absolument par les choses du ciel auxquelles nous prêtons l'oreille. Ce que nous entendons ainsi est beaucoup plus beau que le plus beau voyage, le plus beau concert, le plus bel oratorium, le plus beau sermon. Celui qui prête l'oreille, il goûte la joie divine. Bienheureux sont donc ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Lorsque nous écoutons, nous sommes attirés tout entiers vers la voix qui parle. Quelqu'un qui s'entend appeler par son nom et se retourne pour voir qui l'appelle. Et si c'est un ami, alors il se hâte à sa rencontre, évidemment. Il doit donc en être ainsi quand une voix du ciel, et oui, une voix du ciel, nous parvient, et il faut que cette voix nous parviennent et qu'elles pénètrent dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, afin que tout le long du jour, nous ne cessions pas de regarder vers le Sauveur, notre meilleur ami, que nous sachions toujours le trouver, que tous nos pas soient dirigés de manière à ce que nous entendions sa voix et que, en toutes nos actions, nous puissions obéir à cette voix. Alors notre âme, oui, notre âme vivra. Cela ne s'applique pas à notre salut éternel. L'Écriture sainte n'en parle pas beaucoup. Il va de soi qu'un disciple qui est vraiment fidèle au Sauveur, il ou elle n'ira pas en enfer. Mais ce qui importe davantage, c'est que en ce monde, notre âme soit vivante pendant que nous vivons, car c'est ici-bas que nous devons être les témoins zélés et les représentants du Sauveur, pour que la vie éternelle se répande de plus en plus sur la terre, où sont si nombreux ceux qui vivent sans aucune foi, ceux qui sont encore enfoncés dans le mal. C'est là, oui là, que se trouve le défaut. Je serais tenté de dire avec mon humour que tous ceux qui vivent au ciel ne nous sont pas très utiles pour le présent. Mais c'est sur la terre, que nous avons besoin de gens vivants. Et c'est pourquoi je vous supplie tous, vous qui m'écoutez, soyez des gens qui écoutent afin d'être des vivants. Soyez vivants que par vous, on puisse apercevoir et percevoir le rayonnement de la vie éternelle. Alors, nous posséderons la vie et la joie véritable. Nous pourrons ainsi dire, louange à Dieu, louange à Dieu le Sauveur, il vit et par lui, nous avons part à la vie éternelle. Nous ne craignons plus les tribulations, ni même la mort, non, 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 car même en mourant, nous vivrons, oui, nous vivrons au sein de la plus profonde nuit qui nous restons dans la lumière totale, dans la lumière du ciel, car notre âme, elle vit éternellement. Oui, mes bien-aimés, donc, prions les uns pour les autres. Le Seigneur, il veut faire entendre son appel à nos cœurs, il veut ouvrir notre oreille pour qu'elle entende et qu'elle reçoive ce qui vient du ciel, que nous vivions en ce monde de la vie céleste, que nous puissions vivre libres, sans entrave, pleins de bienveillance envers tous, que en nous, on ne trouve ni raideur, ni dissimulation, ni hypocrisie. Apprenons du Sauveur la sainte liberté. Ne soyons jamais amers, ni durs, sans cœur, sans sentiment, que notre piété n'ait pas un visage morose. Aimons et soyons vivants. Soyons heureux dans le Seigneur. Le Seigneur veuille nous accorder cela afin que nous ayons véritablement la vie. Maintenant, une petite remarque, mes chers amis, nous n'allons pas perdre notre salut, ni mieux, le gagner. Si l'enseignement donné, qu'elle dit le plus souvent, que Dieu et Jésus-Christ sont personnellement en tous ceux qui sont sauvés. Mais si je dis, par exemple, que Dieu et Jésus-Christ sont en nous, par le Saint-Esprit. Je ne pense pas que cette réflexion me fera perdre le salut. Le Seigneur, il sait très bien que nous sommes des humains très limités, moi le premier, dans certaines de nos affirmations. Donc croire que Dieu se trouve personnellement en ceux qui sont sauvés, ou de croire que Dieu se trouve en nous par le Saint-Esprit, en ceux qui sont sauvés, ceci ne va pas faire perdre le salut de qui que ce soit. Et nous sommes tous des enfants du Seigneur, sauvés et rachetés par lui, par Jésus-Christ. Chers amis, nous allons prier ensemble. Mais j'ai reçu dans le cœur quelque chose que je voudrais vous transmettre pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre édification. Écoutez bien. Il est dit dans Saint Matthieu, chapitre 12, verset 50, que quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère et ma sœur et ma mère. Cette affirmation vous montre à quel point tout dépend de la nécessité absolue de faire la volonté de votre Père. En cela réside l'intimité même des liens nouveaux qui nous unissent. Cette intimité, elle repose tout entière sur l'accomplissement réel de la volonté de votre Père. Quand on obéit ainsi, on est admis sur le champ dans l'intimité du cercle familial. Et c'est en acceptant la discipline sans réserve aucune qu'on apprend à connaître la volonté qui est celle de votre Père. Et c'est en la discernant tout d'abord qu'on peut ensuite l'accomplir. Mais la volonté du Seigneur pour chaque nouvelle journée, elle ne peut être discernée qu'au jour le jour. Si vous n'avez pas fait le jour même ce qui vous a été demandé, comment pourriez-vous espérer voir clair le lendemain? On ne connaît vraiment la volonté du Seigneur au fur et à mesure des besoins que si on l'accomplit fidèlement quand elle se propose. Mais lorsque on obéit à cette volonté-là, alors le voile se retire et ce que j'attends de vous par la suite, vous est clairement montré maintenant. Chers amis, nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur, dont la puissance commande à la nature, à l'univers entier, impose silence à nos cœurs, suspendus, le cours de nos pensées vaines et si souvent coupables. Imprime dans nos âmes cette vérité qui devrait nous être toujours présente, que tu es au milieu de nous, que tu nous vois et que tu nous entends. Comblés de tes bienfaits, ne saurons-nous pas t'en bénir? Ne te demanderons-nous pas de nous accorder le sentiment des besoins de nos âmes et avec ce sentiment-là, la volonté et le désir de prier selon ses besoins? N'implorons-nous pas le secours et le don de ton esprit de prière et de supplication? Ne viendrons-nous pas à Christ pour avoir la vie, tandis qu'il fait jour encore, et avant que la nuit vienne durant laquelle on ne peut travailler, que nous apprenions à éviter la colère à venir et à mourir avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin de revivre avec lui. Toutes les choses du monde passent, et nous passons avec elles, mais la vie éternelle et le partage de l'homme régénéré, cela reste. Ô Seigneur, fais-nous donc naître de nouveau par la puissance de ton Saint-Esprit. Que cette journée soit bénie pour nous. Donne-nous toutes les directions, toutes les forces qui nous sont nécessaires. Préserve-nous du malheur d'oublier tes saints enseignements. Soutiens-nous dans nos travaux et dans nos peines. Bénis nos familles, nos amis, les malades, les affligés. Ô notre Père céleste, que toi seul sois honneur, à toi seul soit honneur et gloire, et cela dès maintenant et à jamais, et que nos âmes s'attachent étroitement à notre Sauveur adorable que tu nous as donné dans ton grand amour. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et vous savez que Dieu vous aime. Oh oui, il aime tous ceux qui un jour ont eu le courage et l'humilité de reconnaître qu'ils étaient perdus. Oui, ça demande beaucoup de courage et d'humilité. Et là, il fait sa demeure en vous. Et nous faisons partie du corps universel de tous ceux qui lui appartiennent. Soyez bénis. Et je vous embrasse tous avec tout mon amour. À demain matin pour la suite de cette série. Au revoir, mes très, très chers amis.